Oui, quelque chose qui me. Enfin, quand on parle comme ça, et c'est vrai, on parle de nos difficultés, on parle des. Mais je crois, moi, il y a toujours quelque chose qui m'obsède un peu, c'est d'essayer de comprendre, quoi. De comprendre, et on ne peut comprendre qu'en termes de structure. Les structures, c'est ce qui relationne, c'est quelle forme prennent les relations entre les personnes, enfin, voilà. C'est ça les structures. Hein. Et quand on voit justement l'analyse, pour moi c'est fondamental de comprendre l'apparition, comment surgit le capitalisme quoi, à un moment donné. Parce que le capitalisme, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes, et je pense qu'énormément de personnes même, n'en comprennent pas vraiment comment ça s'est produit. Ils ne comprennent pas que c'est une rupture anthropologique phénoménale quoi, qui a eu lieu et qui après va déterminer. Au fur et à mesure qu'il évolue, au fur et à mesure qu'il évolue, il normalise, il prolétarise les gens, de façon à ce que ce ne soit que nous ne soyons que des producteurs et des consommateurs, évidemment, parce que la consommation oblige à une production. Donc, mais l'essentiel, c'est la production, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Donc, comprendre historiquement comment c'est arrivé et la rupture anthropologique qu'il y a eu au XVIe siècle est un endroit bien déterminé qui est l'Angleterre. Je pense que c'est important. Ce n'est pas une évolution naturelle, comme on nous fait le croire. On fait croire souvent que, bon, il y a une société, il y a eu des empires, et après, il y a eu, il y avait le christianisme, et puis après, il y a la société marchande, l'émergence de la société marchande. L'évolution de la société marchande fait que tout d'un coup, le capitalisme apparaît, parce que c'est la maturité de la société marchande. Et après, bon, ben voilà, le capitalisme apparaît, l'industrialisation, tout ça, c'est le progrès, on nous fait croire que, voilà. Mais tant qu'on n'a pas compris quels sont les enjeux qu'il y a là-dessous, comment ce sujet automate dont parle Marx fonctionne tout seul, et que c'est pas seulement de dire il y a des méchants et il y a des méchants qui sont les riches, et les pauvres, c'est les bons. Non, il faut comprendre qu'actuellement, on fait tous partie d'un système capitaliste. D'une société qui est devenue capitaliste. Mais s'il n'était pas avant, auparavant, à 100%, maintenant on peut dire qu'au moins dans les zones piétonnes du capitalisme dans lesquelles on se trouve, la société est 100% capitaliste. Même s'il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Heureusement, c'est notre chance. Mais n'empêche, comment se structure, comment on est normalisé? Comment on est normalisé? Par exemple, time is money. Comment apparaît ce truc-là? On y croit encore. On y croit. Le temps, c'est ce qui mesure toutes nos activités. Tout se mesure en temps, et le temps, c'est de l'argent. Comment c'est apparu, ça, tout d'un coup? C'est pas pour rien que c'est apparu. Je veux dire, ça fait partie du système. Ça fait partie de la création, du montage du système capitaliste. Moi, je crois qu'on a beaucoup de choses à essayer de comprendre, et lorsqu'on comprend qu'on a été normalisé par ce système, à ce moment-là, on peut, je pense, avoir des réponses et des révoltes qui sont beaucoup plus efficaces et qui nous empêche de retomber à chaque fois dans les mêmes erreurs. C'est pour ça que je m'adresse pas seulement, je ne veux pas rencontrer que des anarchistes. Moi, je veux rencontrer des gens qui ont vraiment une démarche volontariste et qui veulent changer les choses et qui vont m'apporter certainement des choses comme on s'apporte tous entre nous. Mais je pense qu'il y a deux choses. D'une part, la compréhension. Et là, je pense qu'il faut, à la limite, faire des groupes d'études là-dessus, travailler. Là-dessus, essayer de se comprendre, parce que si on comprend ça, on se comprend mieux soi-même aussi. On se comprend mieux. Et on ne culpabilise pas, c'est pas la peine de culpabiliser, il s'agit simplement de comprendre. Et après, on peut avoir ce discours, ce récit collectif émancipateur, on peut les avoir, parce que c'est une nécessité. J'insiste beaucoup là-dessus. L'autre fois, je suis tombé sur ce bouquin, bon, je sais pas si c'est par hasard ou pas, mais j'ai écouté sur France Culture. Et par exemple, ce bonhomme-là, bon, je suis pas d'accord avec tout, hein, c'est un psychanalyste, Roland Gori, là, mais il apporte des éléments fondamentaux. Il cite par exemple, il cite Camus, il dit: Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès. Vivre contre un mur, c'est la vie des chiens. Bon, ben ça, c'est écrit en 1946, le siècle de la peur. N'empêche que le fait, la carence de ce récit collectif, fait qu'il y ait des gens qui se sentent écrasés, humiliés. Ces gens-là, eh bien, ils vont en choisir un, parce que comme ils n'ont pas de sortie, voilà, ils vont en choisir un. Et ce sera celui de la destruction. Parce qu'il y a aussi des phénomènes comme ça qui sont importants. Et je rattache Ce que dit Camus, là, je le rattache. Le besoin et les désirs dont se nourrissent les théofascismes, en fait, c'est ce manque, c'est ce vide. Il y a un vide politique énorme. C'est un vide politique dans ce sens, dans un sens aussi spirituel. C'est-à-dire que le politique, c'est pas seulement de dire, bon, on va gérer les affaires. C'est avec une projection, c'est avec une culture. C'est avec une culture, c'est l'art qui nous donne des outils symboliques. La parole, cette parole qui nous permet de transcender la réalité. La réalité, elle n'est pas celle qu'on nous dit. C'est pas vrai. Des fois, l'art, c'est mentir sur la réalité pour la transformer, justement. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de bien insister là-dessus, quoi. Je pense que c'est des phénomènes vraiment... ce que je voulais dire, oui, juste une chose par rapport à ça, ce qui me semble important aussi... Dans la passion de détruire, et Fromm dit une chose qui est vachement à laquelle il faut réfléchir, ça rejoint ça d'ailleurs, il dit une société, bon, l'être humain en fait il naît, il a entre 1 et 2 ans, il prend conscience qu'il va mourir, ça c'est une conscience, il doit transcender cette angoisse de la mort, et cette angoisse de la mort il va la transcender de deux façons, soit la société lui offre une possibilité de création, et c'est la meilleure, la plus belle création qui soit, c'est la création collective, parce qu'on sent dans l'empathie, on sent des choses qui passent entre les gens. Moi, je l'ai vécu des moments par moments, que je pense que tout le monde a vécu par moments, de sentir qu'on est utile, on se sent utile pour le collectif. On se sent utile pour le collectif. Moi, je pense que ça, c'est la plus grande création. Et l'art, ça peut en être un autre, cette façon de communiquer avec les autres. Il y a plein de choses. L'artisanat aussi, ça peut être... je sais pas, par exemple, dans une société qui était une société créative avant le capitalisme, un boulanger se sentait utile, non pas parce qu'il fabriquait quelque chose pour le vendre, hein, ça c'est pour la valeur d'usage, c'était la valeur d'usage avant, c'était pas la valeur de change qui comptait. Maintenant c'est n'importe quoi, on fait des armes parce que c'est ce qui rapporte le plus, parce que ça détruit et puis on est obligé d'en refaire, on fait des guerres pour faire des armes, enfin voilà. Mais... donc si cette société n'est pas capable d'offrir à ses composantes et ses composants un élément de création, eh bien ces personnes, ça sera la même chose, c'est-à-dire de détruire. Détruire, c'est aussi transcendant à quelque part que la création. Donc voilà, on se retrouve avec le phénomène, comment on appelle ça, le symptôme Columbine ou je ne sais pas comment. Voilà, des gens, des jeunes qui ont 17 ans et qui n'en sont complètement... et voilà, ils commencent à tirer sur des gens parce que, bon, ils n'ont aucune raison. Et tout ça, ben, ces terroristes qu'on appelle terroristes, en fait, c'est des petits, hein, comparés aux grands. Mais enfin, disons que tous ces gens qui se retournent là, ben, ils retrouvent hein, dans ces récits collectifs figés que sont les religions, ils trouvent une transcendance. Et ils trouvent, dans la destruction, ils trouvent une réalisation, quoi. Donc je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, sans réponse. On doit apporter quelque chose là, je pense. Et ça rejoint notre... si on se reconnaît là-dedans, ça rejoint nos difficultés, nos souffrances aussi à chacun de nous. On n'est pas étranger à tout ça. Hein, on ne peut pas se dire on n'y est pas là-dedans. Hein, qu'on soit d'un côté ou d'autre, même les riches à la fin du compte. Hein, quand ils se barricadent avec les systèmes audio, enfin, pardon, visuels dans des quartiers parce qu'ils ont peur. Je pense pas qu'ils soient tellement heureux non plus, à quelque part. Hein. Enfin, je sais pas, c'est un phénomène global, quoi.
Ok. N'oubliez pas que là, tout le monde peut prendre la parole, mais il y a...
Oui, il y en a qui sont plus bavards que d'autres.
Il a dit tellement de choses que je... C'était un peu pour revenir à la question de tout à l'heure. Encore une fois, moi, je ne vois pas le capitalisme seulement comme une structure économique, comme un mode de production. C'est avant tout une structure politique, une structure sociale. C'est une structure du pouvoir, une structure hiérarchique. D'après Jalan, le capitalisme n'est pas une civilisation. En tout cas, pas dans le sens où il y a eu la civilisation, l'esclavage basé sur l'esclavagisme, ensuite sur le féodalisme. Au contraire, le capitalisme et la consommation de la civilisation, le capitalisme se distingue par le fait de consommer la sociabilité, la socialisation de l'être humain. En fait, c'est le système, parce qu'on part du principe que lorsque le système hiérarchique il a pris une naissance, ça a été possible grâce au fait qu'on puisse s'approprier la socialisation de l'être humain, qu'on puisse, cette socialisation, ce sentiment de partage, d'être en collectivité, de vivre en collectivité. Quand je parle de sociabilité, je parle de ça. D'être en collectivité, d'avoir une vie collective, parce que si on est des êtres sociaux, ce besoin d'être en harmonie avec son entourage, la nature, les êtres humains, l'univers, etc. On part du principe que la hiérarchie, les structures hiérarchiques ont vu le jour comme ça. Ce qu'on nomme, c'est un viol. C'est un viol dans le sens que tu prives l'autre justement de son humilité, de son émotivité, de ses sentiments, de sa sociabilité. Donc c'est un viol, qu'il soit homme ou femme. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que c'est les femmes qui ont été le plus utilisées pour mettre en place ce système. Et ailleurs, parallèlement, on a mis beaucoup l'accent sur le système de pensée analytique. Et je vais juste donner un exemple. Quand vous avez l'idée de la feuille, c'est juste un concept, c'est juste une abstraction. Vous n'allez pas sentir cette feuille, parce que la feuille, elle est viande, elle est verte, elle est brune. Moi, je ne sais pas, elle a plein d'aspects, mais tu ne vas pas la sentir. Tu vas uniquement la penser au niveau abstractif, au niveau conceptuel. Ça aussi, c'est un viol. Mais si tu ne la sens pas, la feuille, je veux dire, si tu ne sens pas ce que tu dis, si entre ce que tu penses et tes sentir, s'il n'y a pas une union, s'il n'y a pas une unité, c'est un viol. Donc, il y a un système aussi conceptuel. Il y a une manière de conceptualiser aussi qui mène toujours à ça. Et puis ce système abstractif, ce système analytique, ce système très spéculatif, il était extrêmement développé dans nos sociétés. Donc on en est arrivé là. On arrive à dire, est-ce qu'on souffre ou on ne souffre pas? Ce n'est pas possible qu'on ne souffre pas. La souffrance, elle n'est pas quantifiable. Tu ne peux pas dire, l'autre, il souffre plus que moi. Ou moi, je souffre plus que lui. C'est un tort. C'est une insulte à l'être humain, si je peux me permettre. Moi, je ne peux pas dire, je l'ai eu fait, moi, je ne peux pas dire que moi, je souffre parce que je suis curse, je souffre plus qu'un Suisse. Je ne peux pas. C'est inhumain de penser ça, déjà. Que de la même manière, un Suisse, il ne peut pas dire ça à mon sujet. Ce n'est pas des choses quantifiables, parce que c'est justement l'humanisation de l'être humain qui est en cause. C'est son truc émotionnel, sentimental, c'est sa sociabilité qui est en cause. Tu ne peux pas le quantifier, ça. C'est justement quand tu tombes dans le piège de la quantification que le capitalisme hiérarchie, ça commence. Voilà.
Je sais pas, moi je suis obsédé par le manque de temps. Parce que c'est toi qui dis ça. Hein. Faire quelque chose avant qu'on périsse. Quoi, parce que je crois que cette triple menace, parler de ça, des deux, mais bon, cette urgence, elle est quelque chose qui nous presse, et je pense que si on est là, et moi en tout cas, si j'essaye de militer, de faire des choses, c'est pour essayer de faire bouger les lignes. Alors, où est-ce que ça peut bouger le mieux? J'ai une inquiétude, Floréal, c'est que depuis très longtemps, depuis des années, qui m'habite dans mon travail notamment, c'est que je suis en train de comprendre depuis quelques années, dans différents contextes, je vous passe le détail, que comprendre, c'est pas ce qui nous permet de créer. D'ailleurs, tu as utilisé trois mots forts, la projection, dans ce que dit Camus, hein, dans ce que tu as lu là, la créativité, la transcendance, c'est-à-dire c'est tout. Tourner vers le futur, vers la création, vers quelque chose à construire, comprendre pourquoi on s'est cassé la gueule, comprendre comment le capitalisme a pu gagner. Je ne sais pas si c'est utile, si on va pouvoir tirer de là les briques pour construire l'avenir. Je ne suis pas sûr, je pense même que ce n'est pas ça. Je pense que ce qui est génial chez Edison, c'est que tout à coup il invente l'ampoule électrique parce qu'il ne cherche pas à perfectionner la bougie. Donc on se dit, bah tiens, comment est-ce qu'on va faire mieux? Alors d'abord, il y a le bout de bois qui brûle, puis après il y a la lampe à huile, puis après il y a la bougie, puis après il y a la lampe à pétrole. Il y a une évolution. À un moment donné, il se dit, mais tiens, faire brûler quelque chose en absence d'oxygène, je pense que ses copains de l'époque ont dû lui dire, t'es complètement marteau de penser un truc pareil. Ouais, il invente la bougie parce qu'il y a une rupture entre quelque chose qui a évolué d'une certaine manière. On se dit, bon, mais c'est pas avec ça qu'on construit du changement. Peut-être qu'on a quelque chose à trouver à ce niveau-là. Et quand tu parlais d'essaimer, hein, comment est-ce qu'on... Essaimer, c'est joli parce que c'est des petites, toutes petites bêtes qui font qu'on peut... Hein, camarade, c'est toi qui connais ces choses-là. On peut bouffer aujourd'hui parce qu'il y a des petites bêtes qui essaiment et qui vont polliniser, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut faire des petites choses, parce qu'on n'est pas très gros, qui peuvent un petit peu faire bouger les lignes? Je n'ai pas de réponse, mais j'aime beaucoup une idée qui est de s'ouvrir. Moi, ça fait très longtemps que je pense que les anarchistes ont raison, et que donc, puisque j'en suis, je suis tout à fait convaincu de ce qui est. Et je me dis qu'effectivement, causer aussi avec les autres, c'est un truc à faire. Et ça m'agace, hein, parce que quand j'entends certaines conneries, moi, ça me rend franc fou, quoi. Mais quand j'entends les camarades, les écologistes, qui disent oui, alors la défense de l'environnement, diminuer la pollution, je dis, mais bon, si vous avez une vision écologique, c'est une vision systémique, donc de l'ensemble. Tu ne peux pas dire il faut changer un petit bout, alors que tout le reste continue de produire cette merde. Voilà.
Bon, moi je vais prendre la parole. Moi, une chose que j'ai bien aimée dans le film que j'ai entendu, c'est qu'il rappelle que c'est important de trouver un langage qui convient, qu'il faut adapter aux personnes qui l'entourent. Là, il dit qu'il faut parler aux Américains en anglais, en leur parlant de choses, en utilisant les valeurs qu'ils ont déjà positives. Moi, je pense que c'est la même chose qui est tout à fait vrai pour nous aussi. C'est-à-dire comment on peut faire pour tenir un discours qui puisse être entendu par les gens qui ne pensent pas comme nous, et puis afin de créer des liens, et puis justement éviter cet entre-soi. Moi, j'en suis resté là, et je pense qu'il y a un potentiel énorme chez les autres, et, parce que moi, je le vois tous les jours, qu'il y a plein de gens qui ont envie de changement, mais ils ne savent pas comment mettre les mots dessus, et ce n'est pas nécessairement le changement tel qu'on le pense, mais il y a vraiment un discours à créer avec les autres. Voilà.
Je pense qu'il y a une peur autour du changement. Ça c'est peut-être la grosse chose qui nous bloque, c'est que, comme beaucoup, on se rattache à ce qu'on a, même si ça ne nous convient pas, parce que ce qu'on ne connaît pas nous fait encore plus peur que ce qu'on vit, finalement. Mais comment réussir à passer par-dessus cette peur, comment réussir à avoir cette assurance pour oser le changement? C'est quand même un changement radical qu'on attend. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ici sont là dans cette optique-là, quoi, c'est, comme on disait, c'est pas juste changer un boulon, il y a tout un système à changer qui est grand. Et comment réussir à surpasser cette peur du lendemain qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Il y a, je pense, là, j'avais lu des choses justement sur comment fonctionne le changement. Il disait qu'il faut commencer petit. La chose à faire, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il faut vraiment lui donner quelque chose qui est juste devant ses pieds, quoi. Vraiment. Et c'est qu'ensuite, en voyant que ça change, ben, c'est lui-même qui va faire les pas après. C'est lui-même qui va continuer, qui va aller chercher un peu plus loin, qui va changer beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup les critiques sur le recyclage, sur les choses comme ça, qui ne vont pas changer le système en lui-même. Mais pour beaucoup, ce sera peut-être la première étape. Ils se diront, bah, tiens, je recycle et je m'approprie ça parce que ceci ou cela. Et du coup, ils iront peut-être eux-mêmes plus loin. Je le dis, je ne suis pas sûr d'être vraiment convaincu de ça, mais c'était présenté un peu dans cet esprit-là. Après, je pense que beaucoup s'arrêtent à ce qu'on leur dit de faire, donc il ne faut pas dire aux gens « recycler ». C'est peut-être ça le truc. Il faut que les gens ils s'approprient la démarche. Il faut en fait juste leur expliquer. Il faut leur expliquer d'où viennent les déchets, pourquoi, où ça va après, pourquoi c'est important. Et je pense que c'est là où les gens ils font la démarche. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas dans l'optique d'expliquer aux gens, finalement. On leur dit, faites comme ci, faites comme ça. La loi, c'est comme ça. Le règlement, c'est comme ça. J'ai encore vu récemment sur les des trucs de tri. Il disait compressez vos bouteilles pour avant de mettre dedans, mais ils vous disent pas pourquoi il faut faire ça. Et jamais, même dans mon travail, on nous explique jamais. Il faut aller chercher les informations. On dit faites ci et ça ne marche pas. Et là, il y a effectivement un changement de mentalité. Prendre les gens pour autre chose que des pions, finalement.
Parce que le changement ne doit pas venir de l'extérieur, il doit venir de l'intérieur. Il faut que chacun puisse se rendre compte que lui, il peut essayer de rendre sa vie un peu plus créative, qu'il a une marge de manœuvre pour être plus créatif, et puis que tout ça ensemble, bah, si on sent qu'on peut commencer à respirer un peu plus, chacun, ça va donner une respiration pour un ensemble, pour que petit à petit, ça se modifie.
Voilà.
Ouais. Et puis pas attendre que quelqu'un dise... Il est où le changement? Je dois faire quoi pour faire la bonne chose pour le changement? Parce qu'il n'y a pas un changement, c'est une multitude de choses qui reprennent vie partout, qui vont amener à ce que ces choses qu'on nous impose de l'extérieur comme étant ce qu'on doit faire, ben non, ça s'effrite parce que tout à coup on n'y donne plus de crédit, quoi.
Il y avait aussi Dominique. Voilà, mais moi je propose que ceux qui n'ont pas encore pris la parole, on leur donne la parole entre deux.
Je crois aujourd'hui dans la société quand même des choses plus substantielles là, que les déchets.
Oui, c'était pour l'exemple.
Par exemple, les coopératives d'habitation, nouveaux quartiers qui se créent. C'est quand même en partie un peu sortir du système. C'est une question de pouvoir, donc ça affaiblit le pouvoir des régies et des propriétaires. Tout le mouvement de l'agriculture de proximité, c'est la même chose. Donc on est quand même un peu en dehors du système dominant. C'est peut-être pas hyper intéressant au niveau des quantités, mais c'est quand même des terrains un peu d'entraînement pour une nouvelle société, avec des pouvoirs un peu... horizontal.
Moi, je voulais rebondir sur l'histoire de où est-ce que Bookchin a dit sur la de parler pour lui américain, mais pour nous genevois, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des choses un peu mécaniques dans la pensée de gauche qui ont fait que, voilà, tu as une tradition antimilitariste, donc on est contre l'armée, mais on ne se pose pas la question de l'autodéfense, je sais pas, je veux dire, le système des milices, quand il y a un problème de défense d'un territoire. Un système de milices réellement démocratique, ça pourrait quand même être une alternative. Je veux dire, il y a des... je veux dire, dans le monde tel qu'il est actuellement, désarmé complètement, je veux dire, c'est difficile à défendre. C'est difficile à défendre. Il y a quand même besoin de... je veux dire, en Colombie, les femmes... il y a un mouvement féministe qui est extrêmement fort... Mais l'oppression des femmes, il n'a jamais été aussi violent. Au Kurdistan, les femmes se sont organisées militairement et elles règlent les problèmes qui peuvent se passer localement parce que c'est une force réelle. Je veux dire, il y a toute la culture qui était vivante dans les années 70 d'antimilitarisme, toutes ces valeurs positives qui ont été défendues et qui restent positives, qui restent... Moi, je ne remets pas du tout en cause... Pour moi, c'est ma culture. Mais il y a... Ce que je remets en cause, c'est le fait de le... Que ça soit mécanique.
Systématiser, quoi.
Oui, systématiser, en faire une morale. Alors que concrètement, je veux dire, une morale, bon, ben c'est. Voilà. Un autre problème, c'est par rapport à l'identité. On est culturellement issus de différentes identités culturelles, je sais pas, je veux dire, que ça soit. gastronomique, où on est attaché à des choses qui nous viennent de nos parents, ou de notre famille, ou de nos grands-parents, etc. C'est pas mal, c'est pas a priori mauvais, et puis c'est pas parce qu'on aime bien tel plat ou telle façon de, ou qu'on a un imaginaire de la façon dont nos grands-parents vivaient, c'est pas pour ça qu'on devient fasciste ou UDC ou machin. Je veux dire, c'est comme il disait, pourquoi est-ce qu'on a les valeurs positives de nos ancêtres, pourquoi on les abandonne à l'extrême droite? Pourquoi on l'abandonne? Pourquoi l'UDC est le seul à défendre la démocratie directe en Suisse? C'est un scandale. C'est les plus fachos, les autoritaires, qui revendiquent la démocratie directe. Et la gauche dit, ah non, trop de démocratie, tue la démocratie. Non, mais attends, on marche sur la tête. Donc, il y a des valeurs comme ça qui sont défendues mécaniquement, sans remise en question. Et qui font plus de tort que de bien, quoi.
Alors, simplement, je vais te donner la parole. Ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Je vais juste rappeler, on va se donner encore peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On pourra continuer de discuter après. Mais si vous avez des choses à dire, c'est le moment de le dire. C'est pour ça que je le dis. Floréal.
C'est toujours pareil. Hein. C'est difficile quand on parle comme ça, hein, tous, parce qu'on n'a pas un sujet déterminé. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est bien aussi. Et ça permet aussi... est-ce que quand tu disais des choses tout à l'heure, et je rejoins aussi un peu ce que tu disais, Daniel, par rapport aux choses, effectivement, je vois des choses positives qui se font. Moi, j'en vois plein, des choses positives. Et nous, on doit être là. Là où se font les choses positives, c'est là qu'on doit être aussi. Quand tu parles les alternatives qui ont été mises en place, depuis les années 70, surtout, aux États-Unis, c'était déjà dans les années 60, il y a eu plein de choses super intéressantes qui ont été faites, par exemple au niveau des alternatives, au niveau énergétique, au niveau de faire une synergie entre divers systèmes. Bon, c'est un peu le principe de la permaculture. Si tu mets plusieurs systèmes en synergie, ça te permet de créer quelque chose beaucoup plus performant au niveau de tout ce que tu mets en route, quoi. Voilà. C'est un peu ça ce que je... Bon, alors les alternatives, toutes les alternatives partent souvent d'une bonne intention. Je trouve que c'est super. Seulement, le problème, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il n'y a pas un cadre dans lequel elles s'inscrivent. Alors, très vite, elles se font récupérer. La plasticité, la caractéristique du capitalisme, c'est justement d'être capable de conduire la plasticité de l'être humain, sa capacité d'adaptation, il est capable de la reconduire à ses fins. Et là, on a vu ça avec le bio, par exemple. Le bio, c'était quelque chose de complètement marginal. C'était les alternatives qui faisaient ça. Hein, après les années 70, il y a eu un exode, un petit exode rural, pas grand-chose, mais un petit exode. Il y a eu des néo-ruraux, tout. Et puis finalement, c'est tombé dans les mains du business et de l'agro, la bio-industrie, ce qu'on appelle la bio-industrie maintenant. Hier, j'étais frappé, j'étais à Lyon, là, et puis je me retrouve, j'ai un magasin avec le symbole de Carrefour, et puis à côté, bio. Je dis, ah, je vais aller voir, que du bio dedans. Mais c'est de la bio-industrie. Je me demandais, les paysans qui produisent ça, combien ils sont payés, quoi, comment, dans quelles conditions ils travaillent. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Je veux dire, quand on voit les éoliennes, ce que c'est devenu, alors comme les concevait Bourré Bookchin dans les premières années, et comment, justement, l'Institut d'écologie sociale au Vermont, ils ont utilisé c'était génial, parce que ça permettait d'élever des carpes en même temps, produire de l'électricité, avoir de l'eau d'arrosage et tout ça, non? Et notre rôle, justement, quand ces initiatives comme ça se produisent, quoi, et que ça part vraiment de sentiments, de pensées, qu'on va changer les choses, qu'on va effectivement être... on va poser une colle au système, on se rend compte qu'on ne pose pas une colle au système si on ne le voit pas d'une façon globale, quoi. Si on n'a pas une perception de la globalité, et si on n'a pas une direction... Je reviens, peut-être je suis un peu pénible avec ça, mais je pense que cette vision d'avoir un paradigme vers lequel on se dirige, c'est vraiment indispensable. En sachant bien, en connaissant bien les structures dans lesquelles on se trouve et le pernicieux qu'elles peuvent être, quoi, dans tout ce qu'on fait, il faut être très très vigilant. Et il faut être effectivement un porteur d'alternatives, mais avec une perspective bien claire, quoi. Et je pense que ça, c'est important qu'on soit là, justement, et notre effort, elle doit être ça. C'est-à-dire que moi, quand je pense au municipalisme libertaire, je pense à des choses très concrètes. Et je me dis que le municipalisme libertaire, c'est vraiment le lieu où s'expriment toutes les alternatives et toutes les contestations possibles. C'est-à-dire l'arène municipale, ça doit être le lieu de coordination des mouvements qui ont une identité. Tu parlais d'identité, je pense que l'identité, il ne faut pas la perdre. C'est quelque chose qui est important. Parce que autant dans le biotope naturel que dans le biotope humain, la richesse, elle est donnée par la diversité. C'est-à-dire plus on est diverse, et plus on peut survivre à des cataclysmes ou des catastrophes, parce qu'il y a cette capacité de récupération, quoi. Ça fait comme un tampon, quoi, entre les adversités et nous-mêmes, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir toujours cette vision. Et donc je reviens à la municipalité, à l'Assemblée. L'Assemblée, justement, c'est de mettre en avant ces diversités, quoi, qu'il y a dans un village, ou dans des diversités, des choses concrètes qui se font, mais avec une perspective, quoi. Je pense que ça peut être intéressant. Ça permet justement de que chacun garde ses identités, de son identité, et qu'on ne laisse pas ça aux mains des fachos, comme ça s'est passé. La gauche, elle a complètement oubliez ça. La gauche, elle est complètement en panne, elle est complètement perdue. Et c'est là qu'il faut intervenir nous-mêmes, parce que je pense qu'il y a des gens sincères là-dedans. Et donner des éléments, parce qu'il ne faut pas avoir peur, on a des éléments à apporter, il faut être fier de pouvoir le faire, et de dire oui, parfaitement, oui, je m'affirme, je dis les choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez qu'à m'apporter quelque chose contre, mais au moins on rentre dans un dialogue, dans un débat.
Voilà. Ce sujet, est-ce que quelqu'un a vu le film 120 battements? Personne.
Comment il s'appelle?
120 battements.
120 battements.
C'est sur l'historique de ACT UP dans les années 1985, justement, les homosexuels et tout, par rapport aux actions qu'ils faisaient, etc. Et ils avaient un truc, mais regardez-le, ce film, il est absolument extraordinaire. Il y a toute une partie réunion. Alors, ils interdisent aux gens, parce qu'évidemment, dans les réunions, il y a des enjeux, après, ils s'engueulent en dehors. Alors, à chaque fois, ils disent non, c'est dans l'arène, comme tu dis, c'est dans la réunion que ça se dit, si tu ne lis pas là, tu n'en parles pas dehors. Alors, ils disent, si tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Si tu es d'accord, tu fais comme ça. Comme tu dis, c'est difficile quand il y a les sujets. Il y a plein de sujets. Alors, eux, les sujets, il y a surtout sur la prévention, sur l'éthique, sur l'homosexualité, l'exclusion, sur les maladies. Enfin, vraiment, ils sont dans tout, quoi. Et il y a vraiment ce truc, si tu opines, tu fais comme ça. Parce que si tu applaudis, les gens n'arrivent plus à parler. Et c'est hyper efficace. Mais regardez ce film, je vous dis, vous allez adorer faire des réunions. Parce que tu parles, et tout d'un coup, tu dis quelque chose, t'as rien. Et tout d'un coup, tu vas dire peut-être une phrase, comme ça, deux, trois mots sur un sujet, et t'as tout le monde qui fait comme ça. Et on sait que tout le monde est d'accord avec toi. Et c'est super à regarder ce film.
C'est sûrement des choses.
Ouais, tout simple comme ça, juste ce truc.
Tu veux qu'on te le fasse? Vas-y.
Non, mais c'est super efficace, comme tu dis, la marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça change? Il faut s'inspirer de ce qu'on voit, des échanges, etc. Mais ce truc, c'est hyper efficace. Hein.
Est-ce qu'il faudrait à un moment donné que tu parles de Bilbao aussi?
Oui.
Parce que là, ça fait 1h20 qu'on parle.
Voilà. Voilà.
Peut-être qu'il faut peut-être conclure pour que ceux qui ont besoin envie de partir.
Faire tourner.
Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ouais. Bon, les rencontres de Bilbao, en fait, font suite aux rencontres qu'on a eues l'année dernière à Lyon, et qui elles-mêmes font suite à la présentation du livre qu'on a écrit avec Vincent, là, tous les deux. Et donc, j'ai fait une tournée en France pour les présenter, et les gens me disaient, ouais, c'est bien, mais ceci, cela, des questions. Ouais, je ne peux pas tout répondre, hein, je suis un parmi vous, c'est tout, donc... Il faudrait qu'on se rencontre, qu'on fasse des débats. J'ai dit, il faudrait qu'on fasse une rencontre internationale, ça serait peut-être pas mal. Enfin, et puis, c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui n'était pas sourd et qui a dit, bon, ben d'accord, allez, je me propose, on organise. Finalement, bon, après, ça n'a pas suivi tellement, mais ça a marché. C'est-à-dire que dans ces rencontres, il y a eu quand même 200 personnes venant de 14 pays différents. Et ça a été intéressant parce que dans les ateliers, il y a eu des débats avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous, quoi. Mais finalement, il y a eu des moments où on a fraternisé avec ces gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Il y a des choses qui sont passées, quoi, tu vois. Ça, c'était intéressant. Et donc, à la suite de cette rencontre internationale, eh bien, bon, là, on a fait venir des copains kurdes, des copains du comité de soutien aux sapatistes aussi. Il y a eu celle qui a fait le film La guerre des filles, la productrice. Donc, c'était un film que je vous recommande, qui est vraiment très bon, qu'on trouve sur YouTube, d'ailleurs, donc au sujet des femmes du Rojava. Et donc, voilà, on s'est dit, bon, la prochaine, on la fait où ? Alors, j'ai proposé l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Parce que, bon, il y a un tas de raisons, il y a un passé, quand même, un passé important. Et puis, il y a aussi des problèmes, quoi, qui sont des problèmes d'identité, dont tu parles tout à l'heure, et qui sont le problème de l'indépendance. Alors, la question, c'est une des questions qu'on va aborder, je vais commencer par celle-là. Comment peut-on concevoir les nations ? Est-ce qu'on peut concevoir les nations sans qu'on conçoit un État-nation, hein, quelque chose de différent ? Et moi, je pense aux nations iroquoises, par exemple, qui étaient une nation, mais qui étaient des peuples et non pas un État.
Une confédération.
Confédération iroquoise. Très bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en Espagne, c'est une question importante et qui a été... les anarchistes ont aussi beaucoup travaillé là-dessus en disant, effectivement, ben, c'est la confédération, c'est le fédéralisme et la confédération qui trouve une solution acceptable à partir du moment qu'on part d'une autonomie locale, une autonomie régionale, une autonomie, voilà, petit à petit, quoi, une confédération. Non pas comme c'est le cas actuel, et je savais que ça allait se produire, ça. Quand j'ai proposé ça en Catalogne, ce qui se passe, c'est qu'en Catalogne, on n'a pas pu le faire, donc on l'a fait à Bilbao. On a proposé Bilbao. En Catalogne, ça n'a pas été possible parce que les gens n'étaient pas disponibles au moment où on a commencé. Puis il était urgent de faire quelque chose, qu'on était un peu en retard. Il fallait quand même du temps. Et voilà, donc maintenant, on se retrouve dans le conflit. Et puis on n'est pas prêt, encore une fois. On n'a pas de proposition à faire vraiment parce qu'on n'est pas assez nombreux. Non pas qu'on n'ait pas les idées, elles y sont. Parce que si vraiment tu veux un indépendantisme, alors il faut le radicaliser, l'indépendantisme. Il faut le radicaliser dans le sens où on part de l'autonomie et on s'écarte de l'État, parce que l'État est reproduit le capital. L'État, s'il veut fonctionner, il a besoin du capital. Et le capital a besoin de l'État. Les subsides pour maintenir un État, ça part du négoce. Ça part de toute la trame capitaliste, sinon ça ne peut pas marcher. Il faut la valorisation de la valeur, il faut faire de l'argent. Donc c'est un déplacement. Mais ce n'est pas une solution, mais seulement, bon, voilà, comme le gouvernement central est tellement facho dans l'âme que, en fait, il produit des indépendantistes et c'est imparable. Je veux dire, ça va aller très fort et ça peut aller très mal, quoi. Voilà. Et donc, nous, on avait quelque chose à apporter, justement, avec les concepts qu'ont développés autant au jour de Java avec le confédéralisme démocratique. Que les zapatistes, on a quand même ou un monde qui contient beaucoup de monde, de nombreux mondes, ben je pense que c'était quand même des solutions. Et lorsque Bookchin parle d'une mosaïque de peuples, c'est quand même aussi ça, quoi. Donc voilà, ça c'était un sujet. Pardon.
Juste pour parallèle parler du Kurdistan, donc puisque en parallèle de l'autonomie de la Catalogne, il y a l'autonomie du Kurdistan irakien. Qui est exactement la même situation.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a une utopie qui est en train de se développer, qui est confédéraliste, donc au Rojava et en Turquie, et Barzani, qui est un fasciste kurde, propose donc de faire un État. C'est-à-dire que c'est l'antithèse, c'est le franco... le franco local, quoi, c'est-à-dire c'est juste une contre-offensive par rapport à un projet utopique de confédéraliste.
Oui, tout à fait. Ce que je dis souvent, je dis si jamais par exemple Gérone veut rendre indépendant par rapport à l'État catalan, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont envoyer des chars.
Bah, bien sûr. Okay.
Voilà. Bon, après il y avait un autre sujet. Par lequel on va commencer, on ne va pas commencer par celui-là, c'est quelles institutions pour quel municipalisme ? Parce qu'en Espagne, il y a eu un mouvement qui s'est développé, toujours en partant de l'écho de l'histoire, évidemment, comme le municipalisme est quelque chose qui, quand même, rappelle certaines positions du mouvement anarchiste, certains se sont emparés politiquement et en fait ce ne sont que des réminiscences d'une social-démocratie, quoi. Et donc voilà, et là il va y avoir quelqu'un qui, avec lequel on n'est pas d'accord, qui va être là, mais ça va être assez folklorique, je pense. On a invité, donc il y a, elle va venir apparemment, la représentante des coupes. C'est un mouvement donc indépendantiste qui avait commencé d'une façon intéressante en Catalogne à partir des municipalités, mais qui finalement a rejoint le camp des parlementarismes et se retrouve avec des députés au Parlement catalan. Et donc cette femme va venir et on va avoir une grosse discussion sûrement, et c'est intéressant quand même. On va voir. Ça c'est le deuxième sujet qui va être traité, donc ça c'est un sujet important. Voilà, donc si on utilise les institutions de l'État, est-ce qu'on arrive à faire un vrai municipalisme libertaire? C'est pas du tout le cas, en tout cas, on le pense. Mais bon, voilà, c'est le débat hein, aussi. C'est ça qui est intéressant, ça va enrichir, sans doute. Et puis après, y aura un autre sujet qui va être traité, c'est le sujet de l'écoféminisme, et puis le sujet aussi des individus, bon, le sort. Comment dire, la structuration des personnes, de l'émotion et tout ça, dans le système capitaliste. Quoi. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder. Et puis après, à la fin, ça sera la gyminologie, donc une science développée par les femmes au Kurdistan. Et on sait, moi, je ne peux pas trop en parler, parce que je ne connais pas, peut-être tu peux en parler davantage.
Étymologiquement, jeune, ça veut dire femme, puis biologie, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme sociologie.
Ouais.
C'est la science de la femme.
Voilà, ouais. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est
l'histoire, etc., tout ça, du point de vue de la femme.
Ouais. Alors, est-ce que c'est.
Je m'excuse, la femme redéfinit l'histoire. Quoi.
Voilà. En fait, quelqu'un a demandé est-ce que c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mis, je crois, à la fin? Est-ce que c'est transportable? Est-ce que c'est transposable en Europe, dans nos sociétés occidentales? Alors, voilà.
Moi, j'étais à Hambourg, donc, où j'ai assisté à une réunion des femmes kurdes porteuses de ce projet. Et c'est vraiment. C'est en fait c'est un projet d'échange de savoir horizontal avec une reprise en compte de tout la somme académique et la mise en critique par rapport à la domination masculine. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, toutes les sciences sociales, etc., elles ont été quand même beaucoup influencées par le patriarcat et la domination patriarcale et le capitalisme. Et donc, c'est d'essayer de reprendre toute cette somme, de refaire un travail. Je sais pas, mais ça peut être même sur le plan archéologique, par exemple. On s'est aperçu que, enfin, jusqu'à maintenant, les tumulus des sites dans les pays de l'Est, on voyait un squelette avec des armes, on se disait, ben voilà, c'est un guerrier. Et puis en fait, il se trouve que maintenant, avec la génétique, on arrive avec l'ADN à déterminer le sexe des squelettes antiques. Et en fait, il y a 20% de femmes dans ces. C'est-à-dire 20% de ces squelettes de guerriers, enterrés avec 9 chevaux, des chars, des armes et tout ça, c'était des femmes. Donc ça remet quand même en perspective une
vision différente.
La domination millénaire des hommes. Donc toute cette voilà, il y a le côté historique, il y a le côté sociologique, anthropologique, etc. Donc tout ça, comment remettre en avant un peu ce que les femmes ont cherché à droite à gauche
Ouais. Moi, j'en profite pour dire justement par rapport à ça, c'est que ce qui est étonnant, et si vous voyez la guerre des filles, là, vous verrez que la place, l'importance qu'elle donne à la culture, quoi, à la connaissance. Tout à l'heure, on parlait de ça, mais c'est vrai que la connaissance chez les Kurdes, c'est quelque chose d'important, quoi. Moi, quand je suis allé aussi à Hambourg, là, aux rencontres, j'ai écouté une femme qui racontait toutes ces péripéties de la guerre et tout ça, quoi. Et c'est une combattante qui a été 15 ans dans les prisons turques. Et j'ai parlé avec elle à la sortie, je lui ai demandé, ouais, comment vous faites? Parce que Durrut, justement, pendant la révolution, il a dit, si on continue comme ça, on va devenir aussi féroce que aussi brute que les fascistes, quoi. Donc la guerre, ça durcit. Alors, j'ai pas réussi à parler avec elle directement, donc il a fallu une traductrice. Il y avait une fille de 23 ans qui était là et qui connaissait l'espagnol. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, elle en connaissait autant que moi sur la Révolution espagnole. Je veux dire que c'est des gens extrêmement instruits, quoi. Elles sont très instruites.
Okay. On va se terminer là quand même. Je vais te donner la parole tout de suite. Avant de te donner la parole pour le mot de la fin, si vous voulez bien. Je rappelle juste qu'il y a encore une rencontre la semaine prochaine. Il se trouve que l'agenda est comme ça. On a fait 3 rencontres de suite. La semaine prochaine, c'est une rencontre avec la centrale sanitaire suisse romande sur l'handicap et la société, donc à 18h30, avec un repas avant.
Sur quoi?
Donc sur handicap et société. Donc la centrale sanitaire suisse, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge, mais non neutre. C'est quelque chose qui est mis en place dans les années 40.
Non, en 36, même, justement. En 36, parce que la Croix-Rouge ne voulait pas intervenir en Espagne. Donc, ils ont fait un truc alternatif pour soutenir l'Espagne.
Ah ouais.
Et maintenant, ils sont spécialisés. Ils ont produit un document visuel sur le handicap pour essayer de rappeler que le handicap, ce n'est pas un problème. Moi, je ne vais pas le dire. Ce n'est pas seulement un problème de santé qui doit être traité d'une manière médicale. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Que peut-être il faut aussi l'envisager du point de vue de voisinage.
J'ai pas vu le film. Donc
voilà, c'est en fait une approche non institutionnelle du problème. C'est-à-dire que c'est des expériences qui ont été menées en Amérique latine dans le cadre des communautés, justement, comment on prend en charge les personnes handicapées.
Et puis, encore une chose avant que tu aies le mot de la fin, c'est remplissez, laissez vos coordonnées si vous voulez être tenu au courant des futures rencontres qui aura lieu ici. Il y a une feuille ici et un stylo. Mettez bien visible vos coordonnées courriel, électronique.
Et éventuellement aussi les thèmes qui vous intéressent.
Voilà.
Et ou que vous aimeriez proposer. Parce que, je veux dire,
bravo, Alexandre, t'es bien débrouillé.
Tout le monde est appelé à amener ses préoccupations, ses questionnements, les questions qu'elles ont creusées, etc. Merci.
Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'une conclusion après ça, mais parce qu'effectivement, je pense... Nous, on voudrait que ces rencontres, ça continue. Et puis, si vous avez des thèmes qui vous portent, n'hésitez pas. On est preneurs. Et si vous pouvez les coacher, comment dire, avoir l'impulsion pour trouver les gens pour le faire, c'est volontiers. Il y a l'espace pour et on est partant. Enfin, si vous voulez une conclusion sur le sujet lui-même, je n'ai pas spécialement quelque chose, mais... Je voulais revenir sur Florian qui parlait du confédéralisme. Et nous, c'est ce qui nous a un peu motivés pour cette rencontre aujourd'hui. C'était cet élément du confédéralisme. On avait l'impression que c'était l'apport actuel de Bookchin et qui serait utile aujourd'hui dans un moment où l'État-nation est un peu à bout de souffle, en tout cas qui ne répond plus aux attentes, où la démocratie représentative, elle trouve ses limites, elle défend un peu le système en place plutôt que de permettre aux gens de défendre leur point de vue à l'intérieur. Et que ça fait un peu le lien entre l'attente des écologistes d'un retour au local, enfin de penser global, mais d'agir local, et des altermondialistes qui étaient pour un retour de la démocratie directe. Il y a un peu tout ça qui se concentre dans ce que Floréal appelait la mise sur l'espace public des problèmes. C'est ça qu'on voulait un peu amener avec cette soirée. C'est pas un message qu'on veut faire passer, mais c'est une idée qu'on voulait transmettre, on va dire.
Bravo.